dit dans ce texte, la dernière chose, c'est que tout arbre donc, qui ne produit pas le fruit de cette nature transformée par l'Esprit de Dieu, eh bien, va être coupé et jeté au feu. Donc, trois éléments que nous donne Jean-Baptiste. Et ces trois éléments-là, et peut-être que c'est pour ça que j'ai fait cette erreur, c'est que, en fait, effectivement, Jésus les a bien donnés lui-même. On retrouve effectivement ces mêmes pensées dans la bouche de Jésus. Alors, je voudrais quand même le lire. Donc, toujours dans Luc, on est dans Luc au chapitre 13, et verset 3, hein, je vais essayer d'aller assez vite, mais Jésus va dire ceci. Donc, il prenait l'exemple parce que certains lui demandaient quand Pilate a fait tuer les Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Pilate les a fait tuer et puis et Jésus va poser la question, mais qu'est-ce que vous pensez de ces Galiléens qui sont morts de cette façon? Est-ce que parce qu'ils ont commis plus de péchés que les autres? Et Jésus va dire ceci. C'est pas qu'ils ont commis plus de péchés que les autres. De toute façon, frères et sœurs, j'espère que vous savez et que vous, dans votre vie de tous les jours, vous réalisez bien que on est des pécheurs. On a cette nature en nous qui nous attire au péché. Et Jésus va dire ceci, au verset 3. Non, mais je vous préviens, changez votre vie. Donc, changez de comportement. Donc là, c'est bien Jésus qui dit ça. Sinon, vous allez mourir comme eux. Donc il reprend, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est cette notion qui nous a été donnée par Jean-Baptiste. Et au verset 5, il va dire de nouveau, il va insister. Il va dire, non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir. Alors, il va continuer au verset 6. Il va prendre cette même image qui a été prise par Jean-Baptiste au niveau de cet arbre qui produit, ou pas, de bons fruits. Et là, il prend l'exemple d'un figuier qui est planté dans un champ, qui vient pour chercher des figues et puis il n'en trouve pas. Vous connaissez cette parabole certainement. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 7? Il va dire à son ouvrier, regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Et il va leur redire de nouveau, c'est toujours bien sûr dans cette parabole, au verset 9. Parce que le serviteur lui dit, mais peut-être que tu devrais patienter un petit peu. Laisse-le encore cette année, maître, va dire le serviteur. Et puis au verset 9, Jésus va dire, mais l'année prochaine, alors ok, mais l'année prochaine, il donnera, non ça c'est le serviteur, il donnera peut-être des figues, sinon tu le feras couper. Et donc, on voit, donc ces trois, on retrouve ces trois éléments-là, cette fois-ci dans la bouche de Jésus, et je tenais à corriger donc mon erreur. Le fait que Jésus nous demande bien de changer de comportement. Que si on part. Enfin, c'est important de réaliser qu'il va avoir des conséquences, c'est ce que Jésus dit en tout cas, si nous ne portons pas les fruits que Dieu considère bons. Je ne parle pas des fruits que nous, on pourrait considérer bons dans notre humanité. Les fruits que Dieu, lui, considère bons. Et cette, aussi dans ces textes, Jésus montre à quel point nos fruits montrent la réalité de ce que nous sommes. D'ailleurs, quand on regarde dans le Nouveau Testament, plutôt, quand il nous est parlé de cette notion de repentance ou de changer de comportement, c'est le mot grec metaneo qui est employé. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, en tout cas Jésus lui-même, il fait référence 7 fois, pas qu'une fois, 7 fois. Dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, 7 fois dans le livre de Luc, voilà, j'ai compté. Et il va y faire référence 5 fois dans l'Apocalypse, même si l'Apocalypse a été écrit par Jean, mais on sait que dans l'Apocalypse, eh bien c'est Jésus qui s'exprime au travers de Jean. Donc cette notion importante, c'est fondamental, frères et sœurs, pour chacun de nous. C'est important pour moi, Jean-Bernard, mais c'est important pour chacun de vous. De réaliser à quel point on doit changer. On doit changer. Ma vie doit montrer. l'enfant de Dieu que je suis. Alors je sais, je vais redire ce que je vous ai déjà dit, parce que ça c'est tellement dans notre nature. On regarde celui qui est à côté de nous, et puis on dit, ah, il devrait changer. Ah, dans sa vie, moi je ne suis pas comme lui, ou dans sa vie il y a telle et telle chose. Frères et sœurs, de nouveau, j'aimerais vous dire ce matin, regardez pas votre voisin. Parce que Dieu, c'est à chacun d'entre nous, en tant qu'individu, qui s'adresse. C'est à moi. C'est moi, Jean-Bernard, qui dois regarder mon comportement. Quel fruit je porte? Est-ce que je suis celui qui, comme on a vu ces dernières fois, celui qui aime? Parce que quand Jésus nous parle des fruits, de quels fruits? Enfin, on en a vu un certain nombre. Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que j'aime mon frère qui est à côté de moi dans l'église? C'est pas si évident que ça, frère. Parce que aimer l'autre, c'est quand Dieu nous parle d'aimer, il fait référence, parce que rappelez-vous ce petit verset que je vous ai donné tout à l'heure, que je vous ai rappelé plutôt tout à l'heure, où Jésus va dire que tous les disciples bien formés seront comme leur maître. Donc quand Jésus va nous parler d'amour, c'est la référence c'est lui, c'est pas ma référence à moi. Est-ce que je suis capable d'aimer comme Jésus? C'est-à-dire donner de l'amour sans rien attendre en retour. Dans notre humanité, c'est tellement facile d'aimer l'autre quand l'autre nous apporte quelque chose. C'est pas l'amour de Dieu. Ça. L'amour de Dieu, c'est aimer l'autre quand je lui apporte quelque chose. C'est tout à fait différent. Donc, est-ce que je suis capable d'aimer mon frère ou ma soeur? Si je pouvais vous raconter tout ce que j'entends dans nos pastorales quand on échange les choses, on se rend compte que c'est loin d'être évident dans l'Église. Et puis, on le sait bien. Mais là, Jésus va même plus loin. C'est même pas, il ne parle même pas de notre frère et de notre soeur. Il parle de notre ennemi. Est-ce que ma vie, quand Jésus nous parle de manifester des fruits, est-ce que je suis capable, parce que j'ai été transformé par l'Esprit de Dieu, à aimer mon ennemi, à faire du bien et dire du bien de celui qui dit du mal de moi? Si je montre ces fruits-là, je montre que je suis comme le maître. Si je parle de l'amour, hein. Il n'y a pas que ça. Jésus, on l'avait vu la dernière fois, je suis juste en train de faire un rappel, mais faire aux autres ce que nous aimerions pour nous. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Mais je constate. Et si je regarde ma nature, moi j'aimerais que les autres fassent ce que j'aimerais avoir. Si je laisse faire ma nature humaine, je cherche à ce qu'on me satisfasse moi. Je ne cherche pas à satisfaire l'autre, forcément. Je ne veux pas dire qu'on ne le fait jamais. Mais les fruits, si je veux être comme mon maître, si je veux être comme Jésus, si je veux porter des bons fruits, quand Jésus va porter des fruits qu'on porte, ben c'est ça. Je ne vais pas chercher à moi être satisfait par l'autre, je vais chercher à satisfaire l'autre. Quand je regarde l'œuvre de Jésus, moi je suis toujours touché. Jésus s'est donné totalement pour chacun de nous. On est dans notre péché, dans notre misère. Et Jésus s'est donné totalement, gratuitement, sans rien attendre en retour pour chacun d'entre nous. Pour moi, Jean-Bernard. Alors, est-ce que je veux être comme mon maître? Est-ce que je veux ressembler à Jésus? Est-ce que je veux porter des bons fruits? Il y a quand même quelque chose qui est important. On l'a vu la dernière fois, ne pas juger ni condamner l'autre. Ça, c'est dans notre humanité, c'est naturel. frères et sœurs. On oublie tellement souvent, certainement, qu'on sera... Enfin, encore une fois, c'est écrit dans la parole de Dieu. Qu'on sera mesuré de la façon dont on mesure l'autre. Si on avait toujours cette pensée qui était gravée dans notre cœur, je pense qu'on aurait des comportements différents quelquefois. Et puis, le pardon. Dieu ne nous demande pas de pardonner facilement avec celui avec qui on est bien. Ouais, tout va bien là. Ça va tellement bien qu'on n'a rien à pardonner. Non. Pardonner, c'est un sacrifice. Il y a un coût. Est-ce que je porte ces fruits? C'est de ça qu'il est question ici. Quand Jésus prend cette image, comme Jean-Baptiste l'avait pris avant, de cet arbre, quel fruit je porte? Frères et sœurs, c'est tellement important pour nous. Pourquoi c'est si important? Parce que, je lis ce que je lis, c'est ce qui est écrit, c'est ce que Jésus a dit. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Quand je prends les textes que Jésus a dit dans tout ce livre de Luc, mais même dans les textes de l'Apocalypse, des conséquences si je ne porte pas les fruits. Alors comme le disait tout à l'heure notre frère Nathanaël, on est dans un processus, on veut être saint. La sainteté, c'est un processus. Personne ici peut dire moi je suis parfait. Mais on peut être engagé dans ce processus pour porter les bons fruits. Vous savez, quand un arbre, les fruits... commence à pousser. Ils ne sont pas mûrs et bons comme ça du jour au lendemain. Ça prend tout un temps. Mais est-ce que je suis engagé à porter? Est-ce que je désire que l'action du Saint-Esprit dans ma vie me transforme? Alors, on va lire quelques textes. Et je vais commencer par un texte de Matthieu, encore une fois, pour reprendre tout ce que je viens de vous partager à l'instant. Matthieu 7, verset 15. Attention. Méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils sont doux comme des agneaux. Mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Comment les reconnaître? Au résultat de leurs actes. Est-ce que vous allez cueillir du raisin au buisson d'épines ou récolter des fruits sur les ronces? Ainsi, tout arbre sain porte de bons fruits, tandis qu'un arbre malade produit de mauvais fruits. Il est impossible qu'un arbre sain porte de mauvais fruits ou qu'un arbre malade produise de bons fruits. Et au verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est d'après leurs fruits que vous pourrez juger les serviteurs de Dieu. Donc je répète, parce que là c'est Jésus qui parle. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est arraché, jeté au feu. C'est d'après leurs fruits que vous pourrez juger les serviteurs de Dieu. Est-ce que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu? Qui ici est serviteur et servante de Dieu? Seigneur, aide-moi. Touche ma vie à moi. Que je porte des bons fruits. Et Jésus va continuer. Moi, je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, je je l'ai déjà dit, j'ai 61 ans aujourd'hui. Quand je suis né dans mon berceau, j'aime réaliser. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, ça, c'est tellement important. J'étais né, enfin, dans mon biberon, il y avait la parole de Dieu. C'est une image, évidemment. J'ai entendu la parole de Dieu, je l'entends depuis que je suis bébé. Et un jour, cette parole me touche, elle me parle. C'est quelque chose que je veux vivre. Un jour, mais Dieu connaît notre cœur. Et un jour, un prophète est venu. Et il a donné une parole de connaissance sur ma vie. Puis il dit, dans ton cœur, il y a comme un... Enfin, je n'ai peut-être plus les termes exacts, mais la parole de Dieu est comme un cercle de feu dans ton cœur. Ce qu'il voulait dire, c'est que... elle porte dans mon cœur cette parole. Elle me touche. Elle me parle. Et pourquoi je suis en train de vous dire ça? Depuis tout jeune, bien sûr, il y a un moment donné, il a fallu que je me convertisse. Mais cette parole de Dieu... elle me percute aujourd'hui encore. Quand je le lis, je lis ces textes que j'ai lus peut-être des dizaines et des vingtaines ou des centaines de fois. Je n'ai pas compté, je ne sais pas, mais cette parole, elle interpelle mon cœur. J'espère qu'elle interpelle votre cœur aussi. Et voilà ce que Jésus va dire. Ça m'interpelle. Au verset 21, donc dans la suite de ce que je suis en train de vous lire. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté du Père Céleste. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur !» Nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons même chassé des démons en ton nom. Nous avons même fait beaucoup de miracles. Ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, Jésus dit, il me faudra déclarer formellement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vos actes sont mauvais. Ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Seigneur, je veux regarder ce texte et me regarder avec ce texte. Quels sont mes actes? Est-ce que mes actes, Seigneur, tu les considères comme mauvais? Mets-les à la lumière, à ta lumière. Pas à la lumière de ma nature déchue. Pas à la lumière de ma nature adamique, Seigneur. Mets-les à la lumière de ta nature à toi. Est-ce que je montre, à travers de ce que je suis, j'ai été transformé? Donc je suis dans ce processus de sanctification, de transformation, de changement de mentalité. Frères et sœurs, des serviteurs de Dieu que nous sommes, on ne peut pas ressembler au monde. C'est impossible. On doit être changé. Si je laisse faire ma nature adamique, je vais ressembler au monde. Si je laisse faire la nature de l'Esprit de Dieu en moi, je ne ressemble pas au monde. Je ne fais pas ce qui se fait dans le monde. Il y a une certaine tristesse quelquefois. Paul Washer disait, les églises sont remplies de gens qui croient être sauvés, qui sont perdus. Je partage, je ne suis pas en train de porter un jugement ici, hein, mais frères et sœurs, en tout cas, on doit s'interroger. Parce que Jésus nous parle de choses sérieuses. Le fait d'être changé, c'est quelque chose de sérieux. Parce que les conséquences sont sérieuses. Peut-être que dans ma vie d'aujourd'hui, si je rentre sur ce chemin large, facile, ça sera mieux pour moi, pas pour ma nature humaine. C'est possible. Parce que le chemin étroit difficile, eh bien, il y a des difficultés. N'empêche que dans ce chemin étroit difficile, oui, crucifier ma chair, c'est pas simple. Mais Jésus est avec moi. l'Esprit de Dieu est avec moi. Il est celui qui me porte. Il est celui qui me donne les forces. Il est celui qui me remplit de joie. Quelle joie! Tout à l'heure, on a chanté ce chant. Enfin, être plongé. Comment, je ne sais plus, être plongé dans sa rivière d'amour et être plongé dans la joie. Je ne sais plus le terme. Dans les profondeurs de la joie. Frères et sœurs, c'est quoi les profondeurs de la joie pour Jésus? Vous savez ce que c'est? Bon, peut-être qu'on est tellement limité pour réaliser ça, mais en tout cas, ce qu'il dit, lui, ce que Jésus dit, c'est que ma joie, c'est de faire la volonté de mon Père. Est-ce que notre joie, malgré tous les sacrifices qu'on peut faire quand on veut faire la volonté du Père, ben oui, c'est des sacrifices. Enfin, c'est faire mourir notre nature, c'est chemin étroit, rocailleux, difficile, c'est vrai. La joie, faire la volonté de mon Père. Alors, frères et sœurs, cherchons et regardons la face de Dieu. Regardons ce que nous sommes. Est-ce que je suis changé? Est-ce que j'accomplis ce que Jésus me montre dans sa parole? Est-ce que je ressemble à Jésus? Parce que vous savez, quand Jésus nous donne toutes ces choses qu'on a lues les fois précédentes, hein, que je vous ai rappelées en grande partie aujourd'hui, là, Jésus l'a accompli. Et il l'accomplit encore une fois, toujours pour chacun de nous. Changeons. Enfin, la nécessité d'être changé peut changer notre mentalité. On n'est plus. Si je suis un enfant de Dieu, c'est plus ma. Oh, ça, je l'ai réalisé. Je le réalise quand je lis la parole de Dieu. Enfin, combien elle me touche et combien je le comprends et je le saisis au fond de mon cœur. Je sais, Jean-Bernard, c'est pas tes émotions, c'est pas ton âme qui doivent gouverner. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand Paul va employer ce terme, être un esclave volontaire, oh, je saisis, je ne sais pas si vous saisissez, j'espère que vous saisissez, mais enfin, il y a cette notion d'esclave volontaire. Je choisis d'être esclave de la volonté de Dieu, de porter les fruits qui montrent mon choix. Seigneur. Alors, les fruits. Qu'est-ce qui est la priorité de ma vie? Est-ce que c'est vraiment notre amour pour Dieu? Dans Luc chapitre 7, au verset 23, Jésus va dire ceci. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Au verset 31, il va raconter une petite histoire qui montre bien les hommes que nous sommes quelquefois. Jésus va dire ceci. À qui donc pourrais-je comparer les hommes de notre temps? Ah ouais, c'était il y a 2000 ans. Ouais, c'est encore pareil, frères et sœurs. On n'a pas changé. Donc, à qui pourrais-je comparer les hommes de notre temps? À qui ressemblent-ils? Ils sont comme des gamins assis sur la place du marché, qui se font des reproches les uns aux autres. Quand nous avons joué de la flûte, ben on n'a pas dansé. Quand on a chanté des airs d'enterrement, vous ne vous êtes pas mis à pleurer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de dire Jésus ici, au travers de cette petite histoire? Tout simplement, Jésus. Enfin, j'ai regardé un peu sur les commentaires bibliques pour trouver les termes. Un des commentaires va dire ceci, Jésus avec tristesse compare les hommes de notre temps à des enfants mécontents, boudeurs, parce que la seule chose qui les intéresse, c'est eux. N'est-ce pas ça notre nature adamique? Oui, hein, si on est honnête. La seule chose qui nous intéresse, c'est nous. C'est pas ce qui se passe quand on est revêtu de la nature de l'Esprit de Dieu. Se donne pour l'autre. c'est ce que Jésus a fait. Alors, oui, le monde est rempli de personnes qui sont tout le temps boudeurs, mécontents. Vous savez quoi ? Dans les églises aussi. Comment c'est possible ? S'il te plaît, Seigneur, continue ton œuvre de transformation en nous parce qu'on en a besoin. Je vais avancer. Je ne pourrais pas tout dire ce que je voulais lire, mais ce n'est pas grave. Dans Luc chapitre 8, au verset 21, de nouveau, quand Jésus, les gens viennent vers Jésus, et puis il y a ses frères, la mère et les frères de Jésus qui sont là, et puis certains vont dire à Jésus, ben, tu vois, regarde, ta mère et tes frères sont là. Et Jésus va dire, mais ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est pas le tout d'écouter, encore une fois, on l'avait vu la dernière fois. C'est écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, de nouveau, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens poussé à dire, ne regardez pas votre voisin. Alors, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça. C'est nous qu'on doit se regarder. Est-ce que moi, je n'ai pas à m'interroger si mon frère ou ma sœur est celle qui écoute et met en pratique la parole de Dieu, ce que je dois regarder si c'est moi. J'écoute et je mets en pratique la parole de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, on aura à répondre, pas pour notre voisin, mais pour nous-mêmes devant la face de Dieu. Dans Luc chapitre 9, au verset 23, Jésus va donner une réalité fondamentale. Il va dire, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même et qu'il porte sa croix. Chaque jour, qu'il me suive. Tu veux porter des fruits, des bons fruits selon la face de Dieu. Arrête de penser à toi. C'est ce que Jésus dit. Arrête de chercher à satisfaire tout ce que ton âme adamique veut. Mais prends ta croix et suis Jésus. C'est le seul qu'on doit suivre, c'est notre Seigneur et notre Dieu. Je vous ai dit plusieurs fois que j'avais fait cette promesse à Dieu un jour. J'avais dit, Seigneur, tu sais, quoi qu'il arrive, je te servirai. Je vous l'ai dit, je vous le redis ce matin, quand j'ai fait cette promesse à Dieu, je l'ai fait je savais que ça n'allait pas être facile. Enfin, j'avais mesuré le... Même si je n'avais pas tous ces si certainement, mais en tout cas, je savais que j'allais devoir faire des sacrifices pour accomplir, pour être le serviteur de Dieu. Ouais. J'ai fait une deuxième promesse. J'ai dit, Seigneur, jamais, jamais j'attirerai les hommes à moi. Mais ce que dans le service que je veux accomplir pour toi, Seigneur, je te mets toi en avant. On doit suivre Jésus, frères et sœurs. C'est lui qui est le bon berger. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le modèle parfait. Évidemment, si vous me regardez, j'espère que vous ne voyez pas en moi que mes défauts. J'ai aussi quelques qualités. Mais moi, je ne vous demande pas de me suivre, moi, frères et sœurs. De suivre Jésus. Cherchez la face de Dieu. Arrêtez de penser à vous-même. Jean-Bernard, arrête de penser à toi. Mais porte ta croix. Et Jésus veut dire porte ta croix. Ça veut dire quoi ? À votre avis. Portez la croix. Ça veut dire Jésus nous invite à vivre quelque chose où dans nos émotions, dans notre chair, on sera toujours au top. Ça sera assez formidable pour la croix. enfin les fruits que Dieu agrée. On est d'accord, on est en train de parler de ça. Mais il faut qu'on porte notre croix. Quand tout est en train de s'écrouler autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Est-ce que tu choisis de faire confiance au Seigneur? Parce que si tu fais ça, tu es en train de porter ta croix. Ouais. C'est juste un exemple. Voilà ce que dit Jésus au verset celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, écoutez bien, vous connaissez ce verset, celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. On doit toujours, non, c'est pas dans la Bible, c'est dans Luc. On doit toujours regarder devant. On doit aller au bout. On est sur un chemin. On ne doit pas s'arrêter, on doit continuer. Sinon, on sera d'aucune utilité pour le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus dit. Notre notion. Dans Luc, chapitre 10, on arrive au chapitre 10, verset 17, les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent : Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous donnons des ordres en ton nom. Et Jésus leur répond : mais je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Et puis c'est vrai. Et Jésus va quand même mettre les choses dans l'ordre. Au verset 20, il va dire : ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Qu'est-ce qui fait notre joie ? Est-ce que pour moi, c'est important que mon nom soit écrit dans le livre de vie ? Parce que si pour moi, c'est important, ça veut dire que je veux vivre les fruits que Dieu considère bons. Ça veut dire que dans ma vie, je veux manifester les fruits que Dieu considère bons. Je fais référence au verset qu'on a lu tout à l'heure. Je ne veux pas être coupé. Je veux vivre dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre des cieux ? Un peu plus tard, Jésus va parler et il y a cette histoire de Marthe et Marie, je ne vais pas m'étaler, mais on l'avait bien vu. En tout cas, Jésus va dire dans cette histoire avec Marthe et Marie que Marthe, plutôt que Marie, a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est d'être au pied du Seigneur, d'écouter ce que Dieu dit pour le mettre en pratique. Bien sûr, si on vient au pied du Seigneur, puis on ne fait que écouter, on ne portera jamais les bons fruits. Parce qu'il faut qu'on écoute et qu'on mette en pratique. Il faut que moi, Jean-Bernard, j'écoute. Il faut que moi, Jean-Bernard, je mette en pratique. Sinon. Après, dans Luc 11, toujours, au verset 23, Jésus va dire : celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas à rassembler, disperse. Ce que je suis, encore une fois. On peut pas avoir deux maîtres. Et je vais juste faire référence à cette leçon qu'on a étudié cette semaine à l'école biblique, dans le, enfin le sujet comprendre le combat spirituel, il nous a donné des choses qui étaient quand même très intéressantes d'ailleurs. Premièrement, je vous le rappelle, c'est que le combat spirituel, eh bien, on le vit tous 24 heures sur 24. Le combat spirituel, c'est pas seulement chasser les démons, hein, c'est faire mourir notre nature déjà, par exemple. Et il va nous dire aussi, enfin, je vous l'avais rappelé la dernière fois déjà, je vous rappelle encore une fois, les êtres humains ne seront jamais notre ennemi. En combattant les gens, on a un effet négatif dans le domaine spirituel. Et voilà où je voulais en venir, c'est que il parlait de cette armure en se basant sur le texte d'Éphésiens, Éphésiens 6. Et il a dit, enfin, il parlait de quatre choses importantes. Premièrement, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Deuxièmement, humiliez-vous devant Dieu. Troisièmement, pardonnez-vous réciproquement. Et quatrièmement, aimez-vous réciproquement. Parlez de ces quatre choses qui sont importantes dans le combat spirituel, 24 heures sur 24, à nous nous y sommes confrontés chaque jour. Et puis, il disait aussi autre chose. C'est que, je crois qu'il a raison, c'est que beaucoup, finalement, voient deux dieux. On sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et pourtant, dans nos comportements, quelquefois, on se comporte comme s'il y avait deux dieux. Pourquoi il dit ça? Parce que, on a l'impression, dans notre comportement, que on considère qu'il y a Dieu bon, hein, qui est notre Seigneur, notre Dieu, et puis qu'il y a un deuxième Dieu mauvais qui est Satan. Mais Satan n'est pas Dieu, il ne sera jamais Dieu. Pourquoi disait ça? C'est parce qu'on n'a pas à avoir peur de Satan, déjà. Et Satan est le destructeur. Satan est celui il veut nous détruire, il veut détruire tout ce qui est œuvre de Dieu de toute façon. Il est l'accusateur, il est celui qui va semer la zizanie, qui va tout faire pour. Mais nous, on est serviteurs de Dieu. Et pourquoi je suis en train de vous redire ça, c'est que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il ne faut pas qu'on fasse l'œuvre de Satan. De toute façon, Satan n'est pas Dieu. Et il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a qu'un. C'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Et c'est son œuvre à lui qu'on doit faire. Alors de nouveau, je vois qu'il est moins le quart, je vais peut-être arrêter là pour ce matin. On aura l'occasion d'y revenir. Quand même, pas que savoir avec ce que je vous ai partagé ce matin, mais certainement quand même. Dans cette notion, encore une fois, de changer et d'être différent, de changer de comportement, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire Un miracle chaque jour d'hier, Eric, ce que Eric Salary a écrit. Mais je vais vous le lire parce que j'ai trouvé ça intéressant. Et tellement vrai aussi. Et il met en avant quelque chose, on ne doit pas tomber dans le panneau. Et le titre, c'était Débarrassez-vous de l'esprit critique. Ça, c'est notre nature. Hein. Je ne sais pas, notre nature adamique en tout cas. Alors, il dit ceci, je vais vous le dire. Il n'est pas toujours évident d'admettre que nous avons un esprit de critique, surtout si cela est entré dans nos habitudes. Pourtant, l'abîme nous met en garde. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera et de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. C'est le texte que je vous citais tout à l'heure, c'est dans Matthieu 7, verset 2. Alors d'où vient cette habitude? Ceux d'entre nous qui ont connu des actes de maltraitance dans leur enfance deviennent souvent critiques et prompts à juger en grandissant. Parce que nous avons été démolis dans notre jeunesse, alors nous démolissons les autres pour pouvoir nous élever et donner l'impression d'être des personnes très attrayantes. Nous devenons impitoyables parce que personne n'a eu pitié de nous. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors vous comprendrez que critiquer les autres, les circonstances ou les conditions de votre vie peut devenir rapidement très toxique pour vous-même et votre entourage, parce que le cynisme vous rend imperméable à la joie et à la satisfaction, premièrement. Deuxièmement, du coup, les autres préfèrent vous éviter. Et puis, troisièmement, l'amour finit par se tarir dans votre cœur. Donc, en effet, à cause de cet esprit de critique, il est très difficile de trouver l'amour, l'empathie et le soutien nécessaires pour guérir de vos blessures émotionnelles lorsque personne n'a envie de vous côtoyer. De plus, sans cet amour, vous ne pourrez pas grandir émotionnellement et vous souffrirez de rester toujours au point mort dans votre guérison et votre restauration. Alors, il nous dit aussi ceci. L'auteur du très bon livre « Seigneur, restaure-moi » livre 5 principes pour vous débarrasser de cet esprit de critique. Premier principe. Mettez en place un système de contrôle de vos pensées et de votre bouche. On doit changer. Demandez à Dieu de vous donner un cœur miséricordieux envers les autres, comme le sien. Troisièmement, demandez-lui à voir tout le potentiel des autres et tout ce qu'il y a de bon en chacun. Parce que si on l'a, effectivement, quand on laisse faire notre nature, on voit que le mal en l'autre. Enfin, c'est un peu, c'est, on voit pas, enfin ouais, c'est pas qu'il n'y a pas de bien en l'autre, mais on préfère voir le mal. Donc, ce qu'il nous dit ici dans les cinq principes, c'est que on doit chercher à voir le bien qui est dans l'autre plutôt que de se focaliser sur ce qui est mal en l'autre. Quatrième principe, remplacez délibérément vos critiques par des pensées et des paroles bienveillantes. Ça revient au verset qu'on disait tout à l'heure. Bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. On doit remplacer vos pensées naturelles. Et dernier principe, soyez constamment remplis de l'amour du Seigneur grâce à une attitude de louange et de reconnaissance envers Dieu. Je vous encourage donc à abandonner cet esprit de critique afin de devenir la personne épanouie que vous désirez être. C'est ce qu'il dit. J'arrête là. Mais moi, je trouve que c'est tellement vrai. Notre secours sera toujours dans l'œuvre de Dieu. Notre secours et notre joie, en tout cas ma joie, elle est dans l'obéissance à ce que Dieu me demande, à ce que Dieu m'enseigne. Et de nouveau, je vais terminer là-dessus parce que voilà, on a d'autres choses à vous dire, mais on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Mais mon désir, c'est tellement qu'on puisse réaliser chacun, chacune, et moi le premier, encore une fois, que Dieu m'appelle pour mon bonheur. Je répète, pour mon bonheur, pour que ce soit bien pour moi, à écouter, à mettre en pratique ce qu'il me dit et à devenir comme mon maître, c'est-à-dire à ressembler à Jésus, à aimer comme lui, à pardonner comme lui, à ne pas critiquer, à ne pas juger, etc., etc. Dans mon humanité adamique, je ne peux pas comprendre ça. Je vous rappelle que cette humanité adamique, elle est issue du péché, fin de la chute d'Adam, et qu'elle est manipulée par ce que Satan est, et pas par l'Esprit de Dieu. Alors, frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur. Cherchons à accomplir sa volonté. Laissons-nous interpeller, pas pour notre voisin, mais pour nous-mêmes. Que cette parole puisse nous toucher, nous parler, nous changer, nous transformer, que notre mentalité ressemble jour après jour un peu plus à ce que Jésus est. Alors soyez bénis, frères et sœurs, et qu'ensemble on puisse grandir. Je suis loin d'être arrivé, mais je remercie le Seigneur de ce qu'il me parle, de ce qu'il m'aide, de ce que cette parole qui percute mon cœur, eh bien, change celui que je suis. C'est ce que je vous souhaite aussi. Que cette parole puisse changer celui que vous êtes pour le rendre jour après jour un peu plus à l'image de Jésus. Je vous invite à vous lever, on va prier.